VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et excellent réveil. Morgan Guiriec et Anne Albertson en votre compagnie en ce mercredi 25 novembre 2015. À la une de notre émission.
Explosion au Mali dans la région de Tombouctou. Un membre du personnel civil de la mission de l'ONU sur place a été tué.
Nous ferons le point sur les élections au Burkina Faso avec notre envoyé spécial Bagassi Koura.
L'état d'urgence a été décrété dans toute la Tunisie, de même qu'un couvre-feu dans le Grand Tunis. Ceci à la suite de l'attentat de mardi qui a fait une quinzaine de morts.
Premier voyage du pape François en Afrique. Le souverain pontife entame ce mercredi au Kenya. Un périple qui le conduira en Ouganda et en République centrafricaine.
Destruction en vol d'un chasseur russe par la Turquie, près de sa frontière avec la Syrie.
Comme tous les matins, la Minute Éco et les sports, mais d'abord le journal.
Explosion au Mali dans la région de Tombouctou. Un membre du personnel civil de la mission de l'ONU sur place a été tué lorsqu'un véhicule de la MINUSMA a heurté une mine ou un engin explosif. C'est ce qu'a annoncé l'ONU sans préciser la nationalité de la victime. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a condamné l'attaque qui s'est produite sur la route de Gundam. La MINUSMA ne se laissera pas intimider par ces attaques et demeure déterminée à soutenir le peuple et le gouvernement malien dans leurs efforts pour ramener une paix durable au pays, soutient la mission onusienne au Mali.
Et au Mali toujours, concernant l'attaque de vendredi au Radisson Blue de Bamako, 3 gardes armés assuraient la protection de l'hôtel lors de l'attentat, d'après le groupe Residor, qui gère l'établissement. 2 gardiens et 3 employés maliens ont été tués. Le bilan s'établit donc à 14 clients étrangers, 6 Russes, 3 Chinois, 2 Belges, 1 Américaine, 1 Sénégalais, 1 Israélien et 6 Maliens, 3 employés, 2 gardes et 1 gendarme tués, outre les 2 assaillants de nationalité inconnue. Les corps des victimes se trouvent toujours à Bamako pour les besoins de l'enquête.
En Tunisie, l'état d'urgence a été décrété dans tout le pays, de même qu'un couvre-feu dans le Grand Tunis. Ceci à la suite de l'attentat de mardi qui a fait une quinzaine de morts. John Linden.
C'est un bus de la sécurité présidentielle qui a été touché, faisant une quinzaine de morts, tous agents de la sécurité présidentielle, et une vingtaine de blessés selon un bilan officiel mais provisoire. Dans une brève allocution télévisée, le président tunisien Bedji Caïd Essebsi, qui a du coup annulé une visite d'État prévue à partir de ce mercredi en Suisse, a décrété un état d'urgence de 30 jours dans le pays et un couvre-feu dans le Grand Tunis. Le porte-parole de la présidence, Mouès Zinaoui, a précisé à l'AFP qu'il s'agissait d'un attentat terroriste et que le couvre-feu serait en vigueur jusqu'à nouvel ordre. La Tunisie avait levé début octobre l'état d'urgence imposé quelques jours après un autre attentat qui avait fait 38 morts, tous des touristes étrangers, le 26 juin dans un hôtel en bordure de mer près de Sousse. L'attentat de ce mardi a suscité de nombreuses réactions. Le président François Hollande l'a condamné avec la plus grande fermeté. À Tunis comme à Paris, a-t-il dit, c'est le même combat pour la démocratie contre l'obscurantisme. La France est plus que jamais aux côtés de la Tunisie, de ses autorités et de ses forces de sécurité dans ces moments douloureux, a-t-il poursuivi. Depuis 2013, la Tunisie a été le théâtre d'au moins une quinzaine d'attentats.
En Gambie, le président Yahya Jammeh a décrété l'interdiction de l'excision. Cette pratique très répandue dans le pays n'est pas dictée par l'islam. Par conséquent, elle doit être abolie, a expliqué le gouvernement. La mesure qui vise à protéger les fillettes prend effet immédiatement.
Premier voyage du pape François en Afrique, le souverain pontife entame ce mercredi au Kenya un périple qui le conduira aussi en Ouganda et en République centrafricaine. Les précisions de Michel Joseph.
En droite ligne de son plaidoyer contre la pauvreté, le pape François visitera le bidonville de Kangeni à Nairobi. On s'attend à ce qu'il souligne les effets des changements climatiques et qui, selon lui, affectent de manière disproportionnée les démunis. Par ailleurs, le souverain pontife rencontrera les leaders de différentes confessions du Kenya, un pays ayant une histoire de violence entre communautés religieuses. Dans une lettre adressée au pape, l'ONG Human Rights Watch a appelé le chef de l'Église catholique à se prononcer contre les violations des droits humains dans chacun des pays qu'il visitera au cours de ce voyage. Dans le cas du Kenya, l'ONG a souligné la violence politique, l'instrumentalisation de la question ethnique et les crimes impunis des forces de sécurité, des facteurs qui, selon Human Rights Watch, ont attisé la crise post-électorale de 2007 et 2008, qui a fait un millier de morts et des centaines de milliers de déplacés au Kenya. Human Rights Watch appelle également le pape à dénoncer les violences contre les minorités sexuelles et autres, à revoir la manière dont l'Église catholique perçoit la contraception et à réitérer son message de pardon à l'endroit des femmes ayant eu recours à l'avortement.
Cinq pays d'Afrique de l'Ouest ont convenu avec l'ONU et Interpol d'intensifier la lutte contre le trafic de drogue. Ils ont décidé de développer des unités spécialisées dans la criminalité transnationale. Plus de détails avec Eddie Sango.
Au cours de cette réunion de haut niveau à Bissau, le représentant de l'ONU a tenu à saluer les progrès accomplis par la Guinée-Bissau, longtemps plaque tournante de la drogue d'Amérique latine à destination de l'Europe. L'élection du président José Mario Vaz l'année dernière aurait permis cette nette amélioration, ainsi que les UTC, les unités spécialisées dans la criminalité transnationale, dont est dotée la Guinée-Bissau, mais aussi le Libéria et la Sierra Leone. La Côte d'Ivoire et la Guinée, pays également présents, ont été invités à se doter de ces mêmes UTC qui, selon le délégué onusien Pierre Lapaque, permettent de mieux centraliser les informations pour lutter efficacement contre le trafic de drogue et le crime organisé. Seule zone d'ombre au tableau, plusieurs experts ont averti, la production des méthamphétamines est en hausse dans plusieurs pays de la sous-région.
La Banque mondiale annonce un plan d'action pour aider l'Afrique à lutter contre le changement climatique, mesure qui nécessite un financement de 16,1 milliards de dollars d'ici 2020. L'Afrique subsaharienne est hautement vulnérable face au choc climatique et notre plan identifie des étapes concrètes que les gouvernements africains peuvent suivre pour s'assurer que leurs pays ne perdront pas les gains de croissance économique si chèrement gagnés, explique la Banque mondiale. Son plan sera présenté lors de la conférence sur le climat COP21 qui se tiendra à Paris à partir du 30 novembre, avec l'objectif de limiter à 2 degrés Celsius la hausse du thermomètre par rapport à l'ère pré-industrielle.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, la destruction en vol d'un avion chasseur russe par la Turquie près de sa frontière avec la Syrie est une preuve des problèmes avec les opérations militaires russes en Syrie, a dit le président américain Barack Obama. La Turquie a le droit de défendre son territoire et son espace aérien, a-t-il souligné mardi. Les précisions de Lionel Gaïma.
Lors d'une conférence de presse conjointe à la Maison-Blanche avec le président français François Hollande, le chef de l'exécutif américain dit que les informations étaient encore en train d'être recueillies au sujet de l'incident. Il a cependant noté que les avions militaires russes prennent pour cible des groupes modérés de l'opposition syrienne qui opèrent près des frontières turques. Le président Obama a exhorté les deux parties à prendre des mesures pour décourager toute escalade après cet incident qui, de l'avis du chef de l'exécutif américain, illustre la nécessité de s'acheminer rapidement vers une solution diplomatique au conflit syrien. Je pense qu'il est très important pour nous, à l'heure qu'il est, de faire en sorte que les Russes et les Turcs se parlent et sachent exactement ce qui s'est passé, a-t-il déclaré. Le président français François Hollande a lui aussi appelé à la retenue. Ce qui s'est passé est grave et nous ne pouvons que le regretter, a-t-il ajouté en expliquant que la Turquie était en train d'informer l'OTAN des circonstances de l'incident.
Barack Obama et François Hollande ont affiché mardi leur unité dans la lutte contre le groupe État islamique qui a revendiqué les attentats de Paris. Toutefois, les deux dirigeants se sont bornés à plaider pour l'intensification des échanges de renseignements. L'épineuse question de la place à réserver au président Bachar al-Assad dans une éventuelle transition politique reste entière. Les divergences avec Moscou sur la Syrie rendent hypothétique la grande coalition que le président français espère. On est probablement plus enclin à travailler avec M. Poutine que M. Obama ne l'est à ce stade, a reconnu une source diplomatique française citée par l'AFP.
Et concernant la France toujours, des malfaiteurs lourdement armés ont retenu en otage pendant 2 heures à Roubaix une mère et ses 2 enfants. Ils ont finalement été libérés sains et saufs suite à l'intervention de la police. C'est une opération de grand banditisme et non de terrorisme, soulignent les autorités.
Ici aux États-Unis, le chef de la police et le maire de Chicago ont lancé un appel solennel au calme, peu avant de rendre publique une vidéo montrant un policier blanc abattant de 16 balles un adolescent noir. Le policier a été inculpé de meurtre avec préméditation. De telles poursuites visant un policier sont extrêmement rares aux États-Unis et en tout cas inédites depuis des décennies à Chicago. Des centaines de personnes ont commencé mardi soir à se rassembler sur diverses artères de la métropole, bloquant la circulation, ont rapporté les médias américains. Quelques échauffourées ont éclaté avec les forces de l'ordre. Des abus policiers ont provoqué ces 18 derniers mois des émeutes dans d'autres agglomérations du pays.
Heures post-électoraux en Haïti, deux policiers ont été blessés, dont un par balle, lors d'une manifestation de l'opposition contestant les résultats du premier tour de la présidentielle. C'est ce qu'a constaté une journaliste de l'AFP. Le second tour opposera Jovenel Moïse, candidat du parti au pouvoir, en tête du premier tour, à Jude Célestin.
Enfin, Barack Obama a décerné mardi la médaille de la liberté et la plus haute décoration civile des États-Unis à Steven Spielberg, célèbre réalisateur de E.T., Les Dents de la Mer ou encore Indiana Jones. Parmi les 17 personnes récompensées lors de cette cérémonie figuraient également les chanteuses Barbra Streisand et Gloria Estefan.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec John Lyndon.
La Chine livre à la Mauritanie un centre de technique d'élevage. Le président mauritanien Mohamed Oul Abdelaziz a inauguré lundi près de Nouakchott un centre de technique de l'élevage, le premier dans le pays, réalisé sur don de la Chine pour un financement global de 7 millions de dollars, a annoncé mardi l'agence mauritanienne d'information. Selon l'agence, le centre est composé notamment d'une unité de fabrication de lait, de parcelles pour la culture fourragère, d'une ferme moderne pour l'élevage intensif de bovins d'une capacité de 400 vaches, d'une autre pour l'amélioration des races bovines, d'un service vétérinaire et d'une unité de transformation et de conservation des aliments verts destinés au bétail. La Côte d'Ivoire, elle, a lancé lundi son premier emprunt obligatoire sur les marchés financiers arabo-musulmans en vue de mobiliser 150 milliards de francs CFA, première phase d'une opération censée recueillir à terme le double, a annoncé lundi son premier ministre. La présente opération est ouverte aux investisseurs institutionnels et aux personnes physiques et morales sans distinction de nationalité ni de religion. La Côte d'Ivoire emprunte depuis 2 ans sur le marché international pour booster son économie en pleine croissance.
La Minute Éco, merci John. C'est l'heure des sports avec Eric Manirakiza. Football, la FIFA, la saga Platini continue.
Oui, la situation de l'ex-triple Ballon d'Or se complique davantage. Il risque le bannissement à vie du monde du football. C'est ce qu'envisage le rapport d'enquête de la Chambre d'instruction du comité d'éthique de la FIFA. Mais Michel Platini semble s'en moquer. Une simple réaction en tout cas. J'ai beaucoup de chance, j'ai échappé au bûcher. Toutefois, il reste à Platini 2 voies de recours. Faire un appel en interne à la FIFA, puis se tourner devant le tribunal arbitral du sport de Lausanne en cas de rejet.
En Argentine, le président de Boca Junior est devenu chef de l'État.
Oui, il a été élu ce dimanche. C'est Mauricio Macri qui a présidé Boca Junior, le club le plus populaire de l'Argentine pendant 12 ans et a gagné 17 titres. La période la plus riche en trophées de l'histoire du club. Les Bosteros, les supporters de Boca, ont voté dimanche pour Mauricio Macri plus que pour son projet de société, a commenté un politologue en Argentine.
Et basketball américain, les résultats de la NBA, Indiana Pacers, Wizards 123-106, Boston Celtics, Hawks 97-121, Mavericks, Grizzlies 96-110, Los Angeles Clippers, Nuggets 83-75, Lakers, Warriors 77-111, Chicago Bulls, Trail Blazer 93-88.
Tatiana Mosso avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Retour sur la prise d'otage à l'hôtel Radisson de Bamako. Qui est derrière cet acte terroriste qui a fait au moins 21 morts? Semaine cruciale au Burkina Faso. Rendez-vous aux urnes ce dimanche après des mois de crise qui ont suivi la chute de Blaise Compaoré. Les élections suffiront-elles à ramener la stabilité au pays des hommes intègres? Kenya, Ouganda et Centrafrique voyagent sous haute sécurité du pape en Afrique. Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h30.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et bonjour à tous, si vous nous rejoignez, VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui, deuxième partie de notre émission. Première escale, le Burkina Faso. C'est ce 29 novembre que les Burkinabés sont appelés aux urnes pour élire leurs parlementaires, mais aussi leur président après un an de transition. En octobre 2014, souvenez-vous, les Burkinabés avaient chassé Blaise Compaoré du pouvoir pour son refus d'alternance, pour la corruption rampante, entre autres, dans le pays. Alors qu'attendent-ils du futur président? Notre envoyé spécial Bagessi Koura a posé la question dans les rues de Ouagadougou.
Vincent Ouédraogo, les attentes sont nombreuses. Personnellement, j'attends que ce futur président puisse se pencher sur le problème de la jeunesse, notamment le problème de l'emploi. Et secondo, qu'il puisse à la longue arriver à mettre un terme à la corruption. Parce que je pense que la corruption est la gangrène qui, malheureusement, depuis 27 ans, s'est perpétuée. Et aujourd'hui, on a l'impression, au vu de ce qui s'est passé et ce qui se passe présentement, on a l'impression que les gens n'ont pas encore compris que ce président-là ait l'audace de mettre un terme à la corruption. Je crois que le reste viendra avec le temps.
Je m'appelle Anana Sada, voilà, je suis étudiant. Il faut dire que nous attendons beaucoup du président qui va venir parce qu'il y a trop de problèmes. Le régime a passé à trop creuser de problèmes. Il y a le problème de l'éducation, le problème de la santé, parce qu'il faut comprendre que le Burkina Faso ne se limite pas qu'à Ouagadougou. On a tout aujourd'hui à Ouagadougou, mais faites 10 km de Ouagadougou, il n'y a pas. On a toujours des écoles sous paillotes, districts sanitaires qui sont difficiles à céder. Quand vous prenez la zone des Gawa, la zone de l'Est, tout ça, partout au Burkina, on a ce même problème. Le problème d'eau, je pense qu'il y a plein de choses.
Vous irez voter?
Oui, j'irai voter, bien sûr.
Alors, pour la première fois, Blaise Compaoré ne sera pas candidat. Qu'est-ce que ça vous fait?
C'est un plaisir pour moi parce que nous sommes nés de trouver Blaise au pouvoir. Et nous avons travaillé à ce qu'il y ait l'alternance au Burkina Faso. C'est déjà quelque chose qu'on a gagné. Et vraiment, je pense que l'ensemble du peuple burkinabé, nous travaillerons ensemble pour que vraiment il y ait la vraie démocratie, pour déposer les vraies bases de la démocratie, pour que vraiment ne vive plus ce que Blaise nous a conduit.
Vu la situation sociopolitique au Burkina, on a besoin d'un paysan qui va réunir tous les Burkinabés. Voilà, ça serait... C'est mon avis. Mais il y a un souci, que c'est l'union politique accepte le résultat des urnes. Voilà, c'est le plus important pour moi.
Pense qu'il y a un risque que ça dérape au soir des élections?
Bon, pas forcément, mais quand on a un œil plus précis sur l'ambiance politique au Burkina, en tout cas, ça aspire à la stabilité et à la paix. Mais en politique, il faut s'attendre à tout. Donc, mon souhait est que les uns et les autres acceptent le résultat des urnes.
Voilà, ce dernier intervenant qui s'appelle Haruna Traoré. Des propos qui ont été recueillis par Bagessi Koura.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, Awaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
La commission Vérité, Justice et Réconciliation, CVJR, a entamé une tournée au centre et au nord du Mali. À Mopti, elle a rencontré la société civile dans toute sa composante, une rencontre au cours de laquelle il a été question du mandat, de la mission et des attentes de la population à l'égard de la CVJR. Notre correspondant Mamadou Bokoum nous fait le point sur cette rencontre.
Ousmane Oumarou Sidibé, président de la commission Vérité, Justice et Réconciliation.
Notre présence est surtout pour d'abord venir rencontrer les populations, la société civile, les victimes, les représentants de l'État, tous les acteurs. D'abord pour nous présenter notre commission. Nous sommes organisés en sous-commission, nous aurons des antennes sur le terrain. Donc c'est pour présenter tout ça aux uns aux autres et puis recueillir leur avis, leurs suggestions, leurs observations, leurs recommandations pour nous permettre d'améliorer tout ça.
La commission doit travailler sur l'ensemble des causes des conflits ayant affecté le nord du Mali de 1960 à 2013. La CVJR ne serait-il pas tentée de remuer le couteau dans la plaie? Voici la réponse de son président.
Oui, un peu, si vous voulez, c'est pas vraiment remuer le couteau, non, c'est plutôt soigner les plaies. Parce que, vous savez, je crois que pour réconcilier de manière durable, il faut traiter le passif humanitaire. Il faut que l'ensemble des victimes des différentes crises que nous avons eues puissent venir s'exprimer, que leurs plaintes soient prises en compte pour que vraiment nous puissions avancer dans la réconciliation de manière durable.
Quelle est la vision de la justice sur les activités de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation? Mohamed Maouloud Najim est l'avocat général près la Cour d'appel de Mopti.
La mission que nous venons de recevoir, pour nous, elle vient nous accompagner dans notre mission classique qui est de rendre justice au nom du peuple malien. En ce sens que le travail que la Commission Vérité, Justice et Réconciliation va faire, c'est un travail de reconstitution de la vérité à travers l'écoute, l'identification des victimes et des témoins, à travers l'assemblage d'un certain nombre d'informations que la justice peut utilement exploiter pour rendre justement des décisions conséquentes dans l'hypothèse où la Commission Vérité, Justice et Réconciliation ne parvenait pas à mettre un terme au conflit dont elle est saisie. S'il arrive que des victimes ne se contentent pas du fait qu'on leur dise qu'elles ont raison, ou bien qu'elles ne se contentent pas d'exiger un monument pour la mémoire de leurs parents tombés sur le champ de bataille, etc., à ce moment-là, c'est la justice classique qui va prendre le relais.
Au cours de cette rencontre, la population a évoqué des préoccupations relatives à l'indemnisation des victimes et à la sécurisation des différentes localités de la région de Mopti. Le président de la commission ébauche des solutions.
Par rapport à la sécurisation des victimes, il est clair que pour un travail comme ça, c'est un travail très sensible. Les témoins doivent être sécurisés et c'est une question sur laquelle nous travaillons avec les autorités compétentes. Toutes les victimes sont éligibles à la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Ce sont des citoyens maliens qui ont subi des préjudices et par rapport à ça. Lorsque nos bureaux seront opérationnels, toutes les victimes pourront faire des dépositions.
Des victimes qui n'attendent que réparation pour une paix durable au Mali. Mamoudou Bokoum à Mopti pour VOA Afrique.
Le gouvernement burundais dénonce les sanctions du président Barack Obama contre de hauts responsables du Burundi impliqués dans la crise qui continue de causer la mort de dizaines de personnes dans le pays. Les autorités à Bujumbura se disent plutôt indignées d'une certaine campagne de médisance et de calomnie contre leur pays. Eddy Zango a joint Willy Nyamitwe, le porte-parole du président Pierre Nkurunziza.
Ces sanctions ne nous dérangent en aucun cas. Ce qui nous dérange le plus, c'est la campagne de médisance et de calomnie qui est orchestrée par certaines personnes, dont certaines se trouvent d'ailleurs dans le cabinet Obama. L'ambassadrice Samantha Power, qui continue à propager des rumeurs contre le Burundi. C'est cette campagne de médisance seule qui dérange, sinon ces sanctions ne nous affectent pas.
Vous parlez des campagnes de médisance alors que les jours même où ces sanctions ont été prises, les gouvernements a interdit aux ONG leurs activités.
Non, mais je pense que, étant loin de la réalité burundaise, vous voulez nous dicter comment organiser notre société. Nous avons notre façon de nous diriger et il y a des personnes qui veulent perturber l'ordre et la sérénité du peuple burundais et quand la justice les poursuit, il y a certaines voix qui s'élèvent pour crier halte. Mais quand ça se passe ailleurs, vous avez vu le terrorisme en France, vous avez vu ce qui se passe en Belgique. Quand la justice et la police prennent des mesures pour sécuriser la population, personne ne lève son petit doigt. Alors même au Burundi, il y a des personnes qui ont voulu perturber l'ordre, qui ont fait un coup d'État et qui ont échoué, et d'autres qui ont attaqué notre pays. Alors toutes ces personnes-là, ainsi que leur soutien et leur lobby, le gouvernement du Burundi et la justice peuvent prendre des mesures à leur endroit afin de sécuriser et de protéger la société burundaise.
Ceux qui ont fait le coup d'État sont aussi visés par ces sanctions. Mais en ce moment-ci, il y a chaque jour jour des tueries au Burundi.
Laissez-moi rigoler. Quand on veut nous dire qu'on a sanctionné des putschistes, quand vous mettez quelqu'un qui est déjà appréhendé par les forces de sécurité burundaises et qui est en train d'être jugé au Burundi, qui croupit en prison, et une autre personne qui a disparu dans la nature et qui peut-être n'existerait même pas, eh bien, vous voulez qu'on en dise quoi? Le gouvernement du Burundi sait que ce n'est qu'une simple supercherie. Sinon, ceux qui sont derrière le putsch, ceux qui sont derrière les assassinats au Burundi sont connus. Certains sont des protégés du cabinet Obama, sont des protégés de Samantha Power. Il faudrait évoquer le cas de M. Alexis Ndouige, qui a une milice qui est en train de tuer des gens au quotidien. Mais comme des gens qui le protègent se trouvent au cœur même du cabinet Obama, mais cette personne-là ne pourra même pas être touchée. C'est une personne qui a été citée à maintes reprises dans des rapports des experts des Nations Unies comme étant parmi les fauteurs de troubles à l'est de la République démocratique du Congo.
Tout ceci intervient alors qu'on parle maintenant de la délocalisation du siège de la CRGL. Comment vous réagissez? Pour des raisons de sécurité, évidemment.
Eh bien, toutes ces histoires, c'est des choses qui sont montées de toutes pièces.
Willy Nyamitwe, porte-parole du président burundais Pierre Nkurunziza. Le spectre de la guerre du Biafra refait surface au Nigeria avec les revendications séparatistes de certains habitants du sud-est du pays. Ce sanglant conflit qui s'est achevé en 1970 avait fait près d'un million de morts, des victimes de la famine pour la plupart. Lundi, les indépendantistes sont sortis nombreux pour exprimer leur soutien à Namdi Kanu, directeur de la station pirate Radio Biafra, qui comparaissait devant un tribunal d'Abuja pour terrorisme et financement du terrorisme. Alors, qui sont les nouveaux séparatistes du Biafra? Timothée Donangmaï a posé la question au professeur Tundono Amoussou, ancien vice-recteur de l'Université de l'État de Lagos.
Pour la plupart, ceux qui n'ont pas vécu la période de la guerre, parce que ce sont des jeunes, des gens qui imaginent que le mythe du Biafra, ça vaut la peine d'être entretenu. Mais je vois que pour la plupart, ceux qui ont dans les 60, 70 ans, ceux qui ont vécu en direct les horreurs de la guerre, évidemment, ils ne sont pas du tout disposés à vraiment reprendre cette expérience. D'ailleurs, ils se sont dit que pour avoir perdu sur le champ de bataille, ils ont quand même pris une belle revanche dans le commerce. Et partout, justement, on constate que ce sont les anciens de Biafra qui étaient le haut du pavé, pratiquement dans le commerce du Nigeria. Donc, ils n'ont aucun intérêt à vraiment abandonner ce pays.
Les gouverneurs des États du Sud-Est qui se sont réunis dimanche estiment que leur région est délaissée. Qu'en est-il?
Il y a cette impression que la région est délaissée parce que justement, c'est la région qui a voté massivement pour l'ancien président. Et ils ont l'idée que maintenant, dans le partage des responsabilités, ils sont délaissés pour compte. Et il y a une simple raison à cela. Et vous savez, la politique du Nigeria est tellement prise. Celui qui gagne, il prend tout, il prend les meilleurs morceaux. Selon la Constitution, il faut quand même leur laisser part. Et voilà ce que le gouvernement a fait. Moi, je crois que de toute façon, les choses vont changer, puisque l'ancien Biafra, l'Est du Nigeria, a une part très importante à jouer, même sous les chiffres politiques aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle les gouverneurs se sont réunis pour dire, voilà, on va revendiquer cette chose, et surtout pas le Biafra.
Tous les présidents qui se sont succédés à la tête du Nigeria, y compris le président Buhari, disent que l'unité du Nigeria est non négociable. Alors qu'est-ce que cela signifie pour cette affaire du Biafra?
Cela signifie en clair que le Biafra a plus et que ce n'est pas question de revenir là-dessus. Parce que voyez-vous, le Biafra est au cœur du Nigeria. Et que si jamais il faut quand même sortir le Biafra du Nigeria, c'est tout le monde qui va le faire, à commencer par les premiers intéressés.
Le professeur Tundono Amoussou, ancien vice-recteur de l'Université de l'État de Lagos.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace! Voice Africa.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Morgan Guiriec à la présentation, accompagné de Anne Albertson à la mise en onde. Excellente journée à tous et retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com.